Voilà, donc depuis jeudi, les journées se succèdent et ne se ressemblent pas. Entre le jeudi saint, la messe chrismale, la cérémonie du soir, le vendredi saint, l'adoration de la croix. Le samedi saint, c'est un peu une pause. Parce que le vendredi saint, quand même, c'est... Même psychologiquement, passer immédiatement à Pâques. Il faut quand même la pause du samedi saint. Et... Voilà, notre Seigneur repose dans le tombeau. Son corps reste uni à la divinité, hein, corps et âme. Il n'y a pas de cadavre de notre Seigneur. Il ne faudrait pas employer ce mot-là. Voilà. Et c'est la divinité, la personne divine, qui va réunir l'âme et le corps dans la nuit de Pâques. Voilà, c'est ça. Et puis ce soir, donc la cérémonie de ce soir, qui est tout à fait différente des précédentes encore, avec la bénédiction du feu nouveau, la bénédiction de l'eau baptismale, il y aura un baptême d'adulte aussi cette année, comme l'an dernier, Deo Gratias. Voilà. Alors normalement, la bénédiction du feu nouveau se passe là-bas, du côté de l'école primaire. Bon, tous les ans, de toute façon, il y a des inquiétudes et puis il ne pleut pas. Alors, si jamais il pleuvait, on ferait ici dans la cheminée, mais enfin, c'est pas bon. C'est toujours, on a une cheminée. Voilà. Bon, enfin, écoutez, il pleuvra pas. Voilà, donc, c'est pas la peine de s'installer dans l'église, elle sera dans le noir, il faut aller là-bas. Voilà, puis après, on revient en procession. Dans l'église, avec elle, c'est tout un symbole, comme on a la chance de pouvoir avoir une procession, si vous voulez. On est dans la nuit, on suit, et éclairé seulement par la lumière du cierge pascal qu'on suit. C'est tout à fait l'image de notre vie sur terre. Voilà, nous suivons le petit troupeau qui suit notre Seigneur dans la nuit de ce monde, du péché, de l'erreur, etc. Fixé sur la lumière, voilà, pour aller vers le ciel. Voilà. Alors, cet après-midi, je vais plutôt vous parler justement de Pâques et qu'est-ce que la victoire de la croix a changé dans le monde. Alors, je dis la victoire de la croix parce que Pâques n'est qu'une manifestation de la victoire que notre Seigneur a remportée le vendredi saint sur la croix. Voilà. Et il n'y aurait pas eu Pâques. La victoire aurait été là, mais pour nous ça aurait été plus compliqué de la voir. Il fallait qu'il y ait le triomphe de Pâques au matin de Pâques et puis que notre Seigneur se montre, vienne victorieux, ressuscité, qu'il mange avec ses apôtres. C'est pas une illusion, voilà, je mange du poisson, du miel, je me fais toucher les plaies, voilà, etc. Bien sûr. Bon. Alors tout d'abord, donc ce qu'il faut bien comprendre, nous allons méditer dans quelques instants sur le nouvel état de choses inauguré dans le monde depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tout est différent. Tout d'abord, et puis depuis l'ascension, voilà, d'abord il y a ce fait extraordinaire qu'une personne qu'on a vue vivre sur terre il y a 2000 ans, qui est morte dans des conditions effroyables, cette personne se trouve aujourd'hui vivante, quelque part dans le ciel, et immortelle, dans un état spécial de la glorification de son corps. C'est déjà un fait absolument extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Et quant à l'âme de notre Seigneur, il faut bien penser que même pendant sa passion, notre Seigneur avait la vision béatifique, il voyait son Père face à face, ce qui lui donnait un bonheur extraordinaire. Il faut bien comprendre qu'il y a eu quelque chose de miraculeux parce que on peut dire qu'il y avait comme une coupure dans les deux parties de l'âme de notre Seigneur. La partie supérieure, la fine pointe de son âme, voyait son Père face à face, était dans un bonheur qui était le sien depuis l'Annonciation, depuis son incarnation, voilà. Et la partie inférieure de son âme était dans des affres épouvantables, voilà, c'est ça. Sans que le bonheur de la partie supérieure atténue les souffrances de la partie inférieure, on dit « Oh ben ça a dû le consoler », non, rien du tout. Et sans que les souffrances non plus de la partie inférieure nuisent au bonheur et diminuent le bonheur qu'il avait, non, rien du tout. C'est quelque chose de miraculeux. Mais il y a quand même un état nouveau. Donc même si son âme, voilà, la partie supérieure de son âme, de toute façon, a toujours été dans la vision béatifique, même sur la croix, la partie inférieure de son âme a souffert, mais depuis la résurrection, ne souffre plus. Et il n'y a plus l'ombre de la moindre tristesse chez notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Désormais, rien ne peut plus altérer le bonheur de l'âme de notre Seigneur, quels que soient les agissements des hommes aujourd'hui. Ils ne peuvent pas l'atteindre comme ils ne peuvent pas atteindre le bon Dieu, de toute façon. Donc maintenant, le bonheur et la gloire de son humanité sont parfaits. Et notre Seigneur continue son action depuis qu'il est monté au ciel. Notre Seigneur n'arrête pas d'agir, de travailler, c'est-à-dire eh bien, que toutes les âmes qui meurent, il juge tout instant, enfin, je suppose, tout instant. Je ne sais pas s'il y a un instant où il y a une âme qui ne meurt pas dans le monde, j'en sais rien. Mais enfin, bon. Mais enfin, en tout cas, disons, à tout instant, il y a des âmes qui meurent et qui paraissent devant notre Seigneur et qui sont jugées par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis l'ascension, notre Seigneur ne cesse de juger les âmes qui donc il a et comparaissent tous les hommes comparaissent devant lui. Donc il faudrait que voilà, même les gens qui vivent sans Dieu, sans notre Seigneur, s'ils pouvaient réfléchir à cette chose-là, que il suffit d'un accident de la route et ils se trouvent devant notre Seigneur Jésus-Christ qui va les juger sur toute leur vie. Bon. Alors cette vue du Christ glorieux, pour le moment, bien sûr, est cachée aux habitants de cette terre, parce que pour être sauvés, nous devons avoir le mérite de la foi, ça va être trop facile. Il faut pas, ça servirait peut-être à rien d'ailleurs. C'est surtout pour nous qu'il faut avoir le mérite de la foi. Ceux qui ne veulent pas croire, regardez ceux qui n'ont pas voulu croire de son vivant, ça n'a rien fait. Il a pu ressusciter des morts et tout ça. Bon, ça ne sert à rien. Bon. Mais cette vue du Christ glorieux apparaîtra à tous les hommes au jugement dernier. Alors là, ce sera la grande assemblée. Et il faut penser que c'est cette victoire et c'est sur cette glorification et c'est sur cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ que repose toute notre religion chrétienne. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et nous serions les plus malheureux des hommes, hein, du monde. Des gens un peu bizarres, mais qui vivent complètement dans l'illusion. Bon. Mais il n'en est rien, parce que, eh bien, notre Seigneur, par la foi, déjà par la. Il a donné. C'est toute l'apologétique, tout ce qu'on appelle toutes les preuves qui nous montrent que le. Il faut faire un certain saut de la foi, mais c'est un saut qui doit être raisonnable, parce que nous sommes des intelligences et nous ne devons pas agir de manière déraisonnable. Donc il y a toute une science passionnante, l'apologétique, qui montre que la religion, on peut prouver que Dieu existe, que l'homme existe, que la religion chrétienne est la seule religion possible, etc., que notre Seigneur est ressuscité, etc. Et tout. Bon, c'est pas ça qui donne la foi, mais c'est ça après, une fois qu'on a cette certitude raisonnable, que nous pouvons faire le saut de la foi dans tout ce que notre Seigneur après vient révéler et que là, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre et prouver comme directement, disons, par exemple, le fait que Dieu est en trois personnes, par exemple. On y croit parce que notre Seigneur nous le dit. Mais on y croit raisonnablement parce qu'il y a tellement de preuves évidentes qui fait qu'il n'y a rien de plus raisonnable sur cette terre que d'être chrétien et catholique, et bien qu'on croit à tout ce qu'il nous dit, notre Seigneur. Il est Dieu, il ne peut pas se tromper, voilà. Et par la foi, notre Seigneur nous donne de sa victoire la plus grande des certitudes. Alors, rentrons un peu plus en détail sur cette victoire de notre Seigneur qui change l'histoire du monde d'une manière considérable. On peut dire qu'au matin de Pâques, c'est un monde nouveau qui se lève, qui commence. Alors, attention, il y a un monde nouveau, aujourd'hui, ça s'aggrave de plus en plus. Quelles sont les conséquences de la résurrection? Attention, attention. C'est un monde nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce monde nouveau? Ce n'est pas le monde entier qui est renouvelé. Ce n'est pas le monde entier qui est renouvelé. directement du moins. Après Pâques, les pharisiens et les scribes, quel mystère d'ailleurs, quel mystère, sont plus que jamais enfoncés dans leur péché et dans leur aveuglement. Il y a les gardes qui leur ont témoigné, enfin qu'ils ont vu. « Ah, oh, c'est pas possible, tenez, voilà de l'argent, avec l'argent on arrive à tout et on dit n'importe quoi, voilà, c'est ça. » Ça continue, hein. Ça, c'est bon, ça continue. Ben, c'est un parasite, c'est une, je sais, ça n'a rien à voir directement, mais enfin, au moment du Covid, avec de l'argent, on est arrivé à faire dire n'importe quoi à beaucoup de gens, à la télévision, ailleurs, dans le milieu médical, etc., avec de l'argent, et ils savaient très bien qu'ils mentaient. Bon, alors pour notre Seigneur, c'est pareil. Et puis après, quand il y a eu les apôtres qui faisaient des miracles, etc., et tout, il y a beaucoup de prêtres qui se sont convertis, il faut le savoir, hein, beaucoup de prêtres du temple qui sont quand même, mais eux ne s'y voyaient pas, taisez-vous, etc. et tout, mais ne se remettant pas une seconde en question, c'est ahurissant. On va dire, il n'y en a pas un qui a dit, dites donc, ils ont peut-être raison, c'est incroyable. Quel aveuglement, c'est terrible, hein. C'est un châtiment. Hein. Bon, mystère. Donc les pharisiens et les scribes sont plus que jamais enfoncés dans leur péché et dans leur aveuglement. Et cette haine contre notre Seigneur et contre son Église et contre les chrétiens traversera les siècles. Ça continue aujourd'hui. Enfin, actuellement, ce sont les chrétiens dans le monde qui sont le plus persécutés physiquement. Il y a des rapports qui sont faits, qui sont partout. Bon, on est à peu près tranquille ici, mais enfin... Et encore, en France, en Europe, qu'il y a le plus d'agressions anti-catholiques, hein, des églises qui brûlent, des choses comme ça et tout. Chut, on n'en parle pas, bien entendu. Des cimetières profanés, c'est en France, c'est plus de 40% par rapport à tout ce qui a lieu dans l'Europe. Hein. Donc ça continue. Voilà. Donc cette haine traverse les siècles. Et on peut dire aujourd'hui que ceux qui ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ dominent le monde. Toute cette franc-maçonnerie, voilà, domine le monde. Et l'Église n'a jamais été autant humiliée qu'aujourd'hui. Elle est même humiliée même dans sa hiérarchie, voilà, lorsque l'ennemi a réussi à occuper l'Église. On est passé des vacantistes, hein, mais enfin, l'ennemi a réussi au moins à occuper les têtes. Hein, voilà, bon. Enfin, il n'y a pas que les têtes, mais parce qu'il y en a aussi qui sont dedans, c'est évident. Hein, il ne faut pas voir des francs-maçons partout, mais il y en a. Il ne faut pas dire non plus qu'il n'y en a pas. Alors la résurrection de notre Seigneur n'a rien changé au fait, à un certain fait, c'est que cette terre demeure une terre de combat, de toute façon. Et notre Seigneur a employé cette parabole du bon grain et de l'ivraie qui sont mélangés. Et voilà. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, les fils des ténèbres mèneront une guerre sans merci aux fils de lumière, un combat qui ira même en s'amplifiant, à mesure qu'on approchera des temps de l'Antéchrist. Je conseille à ce sujet le livre du père Calmel, dominicain, Théologie de l'histoire. Voilà. Aussi même le livre que le père Emmanuel Marie a fait sur la richesse de l'Apocalypse, qui est un peu un commentaire, c'est un essai de synthèse de tout ce qui a été dit sur l'Apocalypse, qui vient de comprendre un peu les temps même dans lesquels on vit. Voilà. Il est tout cela parce qu'il est dans le plan de Dieu que cette terre soit une terre de combat. Voilà. Et parce que la gloire du ciel doit être pour nous la récompense d'une fidélité que nous aurons approuvée dans l'épreuve. Voilà. C'était sans doute plus facile de rester catholique intégralement sous Pie XII. Bon. Aujourd'hui, faut faire des choix. Pour aller à la messe, quel pasteur on va choisir là, aujourd'hui. On ne doit pas s'enorgueillir, hein. Oh là là, c'est par une grâce du bon Dieu si on voit clair, mais enfin, gardons-la. Par la tiédeur, on pourrait la perdre. Parce que tous ces gens qui allaient dans les églises qui étaient pleines du temps de Pie XII, combien ont vu clair quand il y a eu Vatican II et la Nouvelle Messe, hein. Ça veut dire qu'il y avait sans doute un catholisme tiède qui ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Et ça veut dire, on comprend mieux à la messe, donc c'est mieux. Il faut avoir un petit peu plus loin. Et... Bon, je ne dis pas pour ça, pour juger les gens, mais enfin... Et si les pauvres fidèles étaient comme ça aussi, c'est parce que les prêtres, les pasteurs, les évêques, c'est tout un ensemble. Bon. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que cette terre reste une terre de combat. Ah, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Bah, beaucoup quand même, hein, et très, très important. C'est que la condition des fils de lumière, de ceux qui veulent rester fidèles au bon Dieu, leur condition, donc notre condition, a totalement changé. Ce qui est nouveau depuis la première Pâque, c'est que les hommes de bonne volonté, en s'unissant au Christ victorieux, deviennent inaccessibles aux forces du mal. Et elles participent déjà, maintenant, à la victoire remportée par notre Seigneur sur la croix et manifestée au matin de Pâques. Le monde fait tous ses efforts aujourd'hui pour vous faire perdre la foi, pour vous emmener dans le matérialisme, l'impureté, etc. Et tout. Comment se fait-il que vous êtes passé à travers les mailles? Alors attention, faut persévérer, hein, faut continuer à entretenir la vie de prière, la confession, la communion, faire des retraites si on peut, voilà, etc. Mais en fait, de fait. Tous les gens qui pratiquent, bon, mais attention, je ne dis pas que ceux qui pratiquent chez l'Église conciliaire, c'est tous des. Il y en a même qui sont plus saints que nous, attention. Hein. Bon. Malgré, c'est pas pour ça qu'il faut retourner à les paroisses. Mais les gens ne voient pas, donc le bon Dieu leur donne des grâces supplémentaires, surtout ceux qui sont fidèles au chapelet. Très bien. Mais comment se fait-il qu'il y ait tant de gens, aujourd'hui, dans ce monde complètement athée, malgré tous les efforts de déchristianisation, eh bien, qu'il y ait tant de gens encore dans les chapelles traditionnelles, et que ça augmente. Même tous les milieux plus conservateurs, ralliés, etc. Je ne dis pas qu'il faut y aller, mais ça augmente partout. Malgré, bah oui, voilà, donc c'est les âmes qui cherchent vraiment la vérité, qui cherchent vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, des fois qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh bien, ils deviennent inaccessibles à tous ces. Mais alors, il faut quand même faire attention, hein, parce qu'il y a un ennemi terrible, il y a notre ennemi, des fois, qui est dans notre poche. Téléphone portable. Bon. Il faut savoir que si des fois on en a besoin, c'est aussi notre ennemi. Le diable est très fort. D'abord, il est rentré dans les maisons avec la télévision. Et maintenant, il est dans la chambre, dans la poche, dans la. Terrible. Mais bon, on peut quand même y échapper. Mais enfin, faut savoir où est l'ennemi et comment prendre les moyens. Voilà. Donc, on peut dire, le nouveau monde inauguré à Pâques, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son corps mystique. C'est-à-dire que, eh bien, les chrétiens, par leur baptême, sont greffés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la prière et les sacrements, ils vivent de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, ce monde nouveau inauguré à Pâques et contre lequel le monde n'a aucun pouvoir. Ce nouveau monde, c'est un monde réel, mais en même temps spirituel, si vous voulez. C'est une réalité qui est en même temps dans laquelle nous sommes aussi, c'est les vases communicants, hein, nous sommes tous solidaires les uns les autres, on s'aide les uns les autres par les prières, par l'exemple, et puis par la communion des saints, les efforts qu'on peut faire, les prières les uns pour les autres, profitent à tout le monde, à tout le corps. Hein. C'est important même d'avoir cette vue très vaste de l'Église. Hein. Et pensons il y a des martyrs actuellement, des chrétiens qui sont persécutés, martyrs, et qui ont dû passer encore une drôle de semaine sainte. Hein. Voilà, mais ils nous obtiennent certainement des grâces pour nous, pour être fidèles ici. Hein. Alors, ce sont trois victoires que notre Seigneur a remportées sur le monde, enfin, trois victoires qu'il a remportées et desquelles il nous fait participer. D'abord, victoire sur le péché. Là, l'une des vérités les plus essentielles de notre foi, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a détruit le péché. Pas un seul péché n'échappe à cette destruction, pas un seul. Notre Seigneur a été au-delà du possible, au-delà de la souffrance, pour que aucune personne ne puisse dire « j'ai trop péché pour ne pas être pardonné ». Il faut bien penser que si sa nature humaine n'avait pas été soutenue par la divinité pendant sa passion, il serait mort depuis longtemps. Il serait mort même peut-être probablement dès le jeudi saint au soir, parce qu'avoir une sueur de sang, les médecins disent que si, c'est très très rare, mais c'est possible, avoir une sueur de sang, ça conduit aux urgences. Hein. On est en réanimation. Alors, bon, après une soirée de sang, passer toute la passion, il y a quelque chose d'impossible. Donc, notre Seigneur, sa divinité le soutenait. Enfin, c'est-à-dire, sa divinité ne l'empêchait pas de souffrir, mais l'empêchait de mourir. Parce que normalement, un corps humain devait mourir. Et puis la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire, la crucifixion, c'est pas possible, c'est pas impossible. Voilà, bon. Et pourquoi ? Donc ce qui fait que, soutenu par sa divinité, mais qui ne diminuait pas ses souffrances, notre Seigneur a exploré des régions de la souffrance humaine, morale aussi, je dis ça en soi, morale et physique, qui sont impossibles pour nous à explorer parce qu'on serait mort depuis longtemps. Voilà, c'est ça. Et pourquoi a-t-il été si loin pour que personne ne puisse dire « j'ai trop péché pour être pardonné ». Voilà. Il a détruit tout péché. Et il y a des péchés horribles, je les vois quand on voit dans l'histoire, des choses inimaginables, qui fait que des gens qui ont fait des choses inimaginables sont des fois sont convertis. Comme quoi, il faut prier même pour nos ennemis, si vous voulez, qu'il peut y avoir des retournements subis. Bon. Donc tous les péchés des hommes ont été placés sur les épaules de notre Seigneur. Il les a portés sur la croix. Il les a expiés par ses souffrances et par sa mort. Même Judas aurait été pardonné de son crime s'il avait eu l'humilité de s'approcher de la miséricorde infinie du cœur de Jésus. C'est le plus grand des crimes, mais lui-même aurait pu être pardonné. Voilà, c'est ça. Et il serait sur nos autels Saint Judas. D'ailleurs, dans une leçon des matines de Saint Léon le Grand ou de Saint Augustin, je ne sais pas, s'adresse à Judas en disant « Mais l'honneur d'être un apôtre ne vous est pas refusé, vous pouvez encore participer, être un des apôtres, etc. » Alors, le péché étant le plus grand mal de l'humanité, c'est ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, mais là, c'est le pape François, on ne parle pas souvent, c'est le refus des migrants, c'est péché écologique, bon. Ah non, le péché étant le plus grand mal de l'humanité, puisqu'il conduit à l'enfer éternel. Imaginez un peu ce que peut être l'enfer éternel. Le péché, c'est le plus grand mal pour les hommes qui puisse arriver à quelqu'un. On n'en sort pas de l'enfer. Alors on peut dire que la délivrance du péché, c'est le plus grand don du Christ à l'humanité. Le grand don du Christ à l'humanité, c'est la délivrance du péché et de tout péché. Et cette délivrance est l'objet de la reconnaissance continuelle de l'Église. Et c'est là ce qui sépare le plus l'Église du monde, surtout aujourd'hui. L'esprit du monde incite continuellement les hommes à laisser libre cours à leurs passions désordonnées. Le monde actuel les y pousse même sans cesse. Bon, avant on disait par toutes sortes de publicités, mais enfin maintenant c'est les écrans.
C'est terrible.
Bon. C'est pas possible, toute cette pornographie. Ou c'est des gens complètement déséquilibrés, qui sont des malades, mais enfin, non, c'est voulu. On paye pour qu'ils payent pour ça, ils sont payés, etc. Et, tout, et les gouvernements, il n'y a aucun gouvernement du monde actuellement qui, apparemment, à connaissance, ne fait la lutte contre ça. Qui est presque impossible d'ailleurs, parce que même si on fait la lutte dans le pays, par Internet et pour tout ça, ça arrive de toute façon. Mais enfin, au moins, on ferait dans son pays. Enfin, je sais pas, chacun sa vocation, mais enfin, normalement, faut lutter contre ça. Voilà, c'est ça. Et c'est pas possible que derrière tout ça, il y ait une inspiration pour mettre les gens dans l'état de péché mortel, parce que c'est ce que le diable veut. Le diable est furieux du plan de notre Seigneur, de l'état de grâce, la participation à la divinité. Il veut détruire tout ça en mettant les gens dans le péché. Et le monde moderne, avec tous les moyens techniques actuels, on a trouvé des moyens pour pécher beaucoup plus facilement et pour répandre le péché beaucoup plus facilement qu'en aucune autre époque. Et ça va très vite. Ça va très vite. Je me rappelle il y a quelques années, quand le fax est arrivé, j'ai pratiqué le fax. Quand le fax est arrivé, Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce qu'il a dit ? Donc tous les prieurés, ce n'est pas une critique, nous aussi. Hein. Tous les prieurés, on a installé un fax. Hein, Monseigneur Lefebvre, sa réaction surnaturelle, c'est le monde qui entre dans nos prieurés. Parce qu'il y a ils envoyaient des publicités en seul. Hein. Le Padre Pio. Il est mort en 68, la télévision existait déjà. Ben, c'est un saint, alors moi je ne pourrais pas dire ça non plus. Il n'a jamais regardé un écran de télévision. Ah, il est saint. Il est saint. N'importe quel saint, Saint François, Saint Louis, il n'a jamais regardé. Bon, nous on a regardé. Enfin, peut-être pas vous. C'est voilà. Je me rappelle les réunions de prêtres qu'il y avait à Saint-Nicolas du Chardonnay. Il y avait au début, le district, la France, il y avait moins de prêtres. Donc, les réunions une fois par trimestre, Saint-Nicolas du Chardonnay, tous les prêtres de France. Mais c'était un peu compliqué. Il y en a qui devaient prendre l'avion. Maintenant, c'est par doyenné. Voilà. Mais, rappelez une réunion, on y allait, une réunion de prêtres à Saint-Nicolas du Chardonnay. Et je me rappelle une réunion de presse. Oh, cher confrère, il faut qu'on combatte davantage la télévision. C'est pas possible. Les gens regardent trop ça. Ils disent, oh oui, ben non, c'était rien. Oh, il est loin le temps de la télévision. C'était bien ce temps-là. C'était, par rapport à Internet, le portable et tout ça, vous rendez compte? Et pourtant, on disait, il faut combattre la télévision. Ce n'est pas des moyens qui, en soi, sont des péchés. Hein, mais l'utilisation qui est dans les fêtes, bon, bah, évidemment. On peut s'en servir pour le bien. On essaye de passer, de toucher des gens par ces moyens-là aussi. Mais bon, voilà. Bon, il y a un combat actuellement pour mettre les hommes dans le péché mortel. Il faut qu'on en soit bien. Et prier pour la jeunesse. Pas facile. Votre âge, mais enfin. Enfin, quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas de portable et tout ça. Ben peut-être que s'il y avait eu le portable, ça n'existait pas. Et même la télévision, ça a mis longtemps avant d'arriver à la maison. Mais mon père, disait, oh, que c'est que ce truc-là. Mais bon, et puis ça y est, ben, puis un jour ou l'autre, c'est arrivé. Bon. Mais on n'a pas connu, enfin la plupart d'entre nous, on n'a pas connu ça. S'il y avait eu, on serait peut-être laissé complètement entraîner. On ne serait peut-être pas ici aujourd'hui. Alors l'Église, connaissant tout ça, elle invite justement, depuis toujours, mais peut-être plus aujourd'hui, enfin, elle invite ses filles des enfants à la pénitence, à la mortification, à la pureté, enfin, en sachant que là, ce n'est plus les grandes pénitences comme d'autrefois, mais enfin, un certain esprit de mortification, ben, faut voir ça avec les prêtres. Voilà. Bon, il y a eu le carême. Voilà. Mais la victoire de notre Seigneur sur le péché, ce n'est pas seulement une destruction. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une absence de péché, ce n'est pas seulement une absence. Notre Seigneur ne se contente pas de détruire, il reconstruit, il restaure, il ressuscite l'âme. Donc par sa résurrection, notre Seigneur, donc si par sa mort il a détruit le péché, par sa résurrection, il a mérité non seulement la résurrection future de nos corps, mais il a mérité aussi la résurrection maintenant, la résurrection actuelle pour aujourd'hui de nos âmes. Voilà. Donc notre Seigneur, et c'est ce que nous aurons à méditer pendant tout le temps pascal, donc par sa résurrection et dans les fruits de sa résurrection, eh bien c'est la résurrection de nos âmes par la grâce pour une vie nouvelle où l'âme participe et vit de la vie divine, au-dessus de la nature humaine, au-dessus de notre propre nature humaine. Des pécheurs, notre Seigneur veut faire les saints de son ciel, les concitoyens des anges. Et il faut bien aussi avoir la confiance dans la toute-puissance de la grâce, justement, pour nous transformer. Nous n'avons pas plus le droit, depuis la résurrection, c'était plus difficile avant, hein. Il y avait la grâce dans le Saint-Testament, bien sûr, mais il n'y avait pas des sacrements aussi puissants que nous, hein. C'est un petit filet qui coulait, là, donc on s'abreuvait, mais enfin, on avait encore soif. Hein. Aujourd'hui, la grâce, c'est des flots, des torrents, sa grâce est toute-puissante. On n'a pas le droit de dire « je ne pourrai jamais me débarrasser de telles mauvaises habitudes ». Peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on a produit, on a causé. Mais il faut avoir toute confiance dans la grâce. Il faut prier, il faut se confesser souvent, aller à la messe en semaine, même si on n'est pas trop loin. Voilà. Faisons de bonnes communions. Et puis un jour, eh bien, nous arriverons à la victoire. Il ne faut pas se dire oh « ben c'est fatal, de toute façon, on retombe tout le temps ». Alors ça dépend, si c'est des péchés véniels, la Sainte Écriture dit le juste tombe 7 fois par jour, mais enfin attention, faut pas non plus faut combattre aussi les péchés véniels d'habitude, mais des péchés véniels qui nous échappent, on en aura toujours. Voilà, faut combattre même les péchés véniels d'habitude, parce que s'ils conduisent à la tiédeur, et la tiédeur, c'est peut être le chemin un jour, notre âme tellement attiédie, elle va tomber dans le péché mortel. Voilà, bon. Faut avoir cette foi dans la puissance de la grâce. Voilà. Donc, victoire sur le péché, victoire sur Satan. Ah, comment est-il? Pourtant, il est partout. Ah oui, mais attendez. Il est partout pour ceux qui se laissent prendre par lui. Et il ne peut pas prendre tout le monde maintenant. Par sa victoire de la croix, notre Seigneur a détruit la domination de Satan sur l'humanité. Alors cette victoire ne consiste pas seulement dans le fait que c'est notre Seigneur qui aurait mérité notre délivrance, et puis on n'a plus rien à craindre parce que notre Seigneur l'a vaincu sur la croix. Non, il y a eu un combat personnel entre notre Seigneur et le démon déjà, personnel sur la croix. Voilà. D'abord, il y a eu ce combat. Donc comment l'a-t-il vaincu sur la croix? Il y a un combat personnel. Alors bien sûr, il ne faut pas voir en Satan, quand il combat notre Seigneur, il faut voir en Satan un adversaire d'une force égale au Christ. On n'est pas manichéen, hein, ce n'est pas un autre Dieu. Satan n'est qu'une créature qui n'a de pouvoir que le pouvoir que le bon Dieu lui donne. Donc il n'y a pas eu un affrontement entre le Dieu du bien et le Dieu du mal. Notre Seigneur seul est Dieu, Satan n'est qu'une créature entre les mains de son Créateur. Mais notre Seigneur s'est laissé faire, sa victoire c'est un abandon total. Il s'est laissé faire par ses ennemis, en qui Satan avait mis une rage et une haine comme on n'en déploiera jamais contre aucun homme sur cette terre. Pour humilier et outrager notre Seigneur comme on ne le fera pour aucun homme. Et la victoire de notre Seigneur, et notre Seigneur a frémi le jeudi saint au soir dans son sensibilité extrême. Notre Seigneur a une très grande sensibilité parce qu'il avait été conçu par le Saint-Esprit, plus sensible que nous. Donc ça montre ses souffrances, ça serait plus. Si on avait les mêmes souffrances, on souffrirait moins que lui. Parce que, extérieurement, c'est matériellement, si on avait les mêmes souffrances, on souffrirait moins parce qu'on a moins de sensibilité que lui. Donc il a frémi, il a tremblé dans le jeudi saint au soir en sachant ce qu'il attendait physiquement aussi le lendemain. Eh bien, sa victoire, ça a été de se laisser faire sans une plainte, sans une seule plainte, même quand on a enfoncé des clous dans ses mains, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et c'est cette humilité. Et alors, dans un mouvement d'abandon et d'obéissance à son Père et de charité, pour son Père et pour nous. Donc c'est cette humilité, cet abandon, cette obéissance inouïe en face de tels outrages, eh bien c'est cela qui a vaincu celui qui est fixé pour toujours dans l'orgueil de la révolte. C'est son orgueil qui a été vaincu. Satan n'a rien pu faire pour détruire l'abandon total de notre Seigneur envers ses bourreaux. Et les martyrs, c'est la même chose, les martyrs qui suivent le chemin de notre Seigneur avec une grâce miraculeuse, le martyr. Les actes des martyrs, les martyrs d'Avrier ou de tous les martyrs, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui brille en eux? C'est l'abandon. L'abandon, la paix, et même le martyr d'Avrier chantant des cantiques de Saint-Louis-Marie. On dit, moi, j'en serais, c'est pas possible pour moi, c'est impossible. Évidemment. Les martyrs d'Avrier, quand ils étaient en Vendée, si on leur a dit qu'un jour ça se terminerait comme ça, ils auraient été se cacher dans la forêt en disant pourvu qu'on ne prenne jamais, parce que c'est pas pour moi, ça, évidemment. Mais le martyr, c'est une récompense d'une fidélité au jour le jour, à tout instant, à notre Seigneur. C'est la récompense de leur fidélité. C'était des gens très pieux, très fervents, très assidus à leurs devoirs d'État, aux petits devoirs, une très grande charité, etc. et tout. Et alors, quand ils se sont trouvés, le martyr arrive, quand on se trouve, parce que c'est ou le martyr ou l'apostasie. Ou renier notre Seigneur, ou se faire tuer. Voilà, c'est ça. Là. Quand il n'y a plus d'autres possibilités entre ou renier notre Seigneur ou se faire tuer, c'est terrible de se faire tuer comme ça, etc. Et tout. Eh bien, notre Seigneur donne une grâce miraculeuse pour qu'on puisse lui rester fidèle. C'est une grâce qui est la récompense. Voilà. C'est la parabole du serviteur fidèle. Parce que tu as été fidèle en petites choses, tu auras une récompense comme les grandes au ciel, bien sûr, mais même là aussi, c'est la fidélité au jour le jour. Ce n'est pas la peine de se poser des questions, parce que si on est fidèle maintenant, nous aurons la grâce si un jour... Voilà, bon, c'est tout. Voilà. Donc plus ses ennemis l'outrageaient, plus il faisait souffrir notre Seigneur, eh bien, plus il entrait par humilité et par amour dans les souffrances qu'on lui infligeait. Plus il souffrait, plus il rentrait dans les souffrances, volontairement. Il ne se cabrait pas contre. C'est extraordinaire. Et il le faisait par amour pour son Père, dont il réparait. Il savait que plus il rentrait dans ses souffrances, plus il réparait tous les péchés de l'humanité et permettait à tous les gens qui voulaient de se sauver. C'est pour ça qu'il entrait de plus en plus. Parce qu'il réparait pour des péchés, les péchés de plus en plus graves. Et par amour. Et en même temps, son amour pour son Père, qui est encore plus grand, en même temps, il savait qu'il réparait toute la gloire de son Père. Voilà. On sait aussi d'ailleurs que lorsqu'on célèbre la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Eh bien, quand on célèbre la messe, après la messe, eh bien, en sortant de la messe, on peut dire, toutes les horreurs du monde actuel, etc., ont été réparées par la messe. Là. La gloire de Dieu a été réparée. Et pensez aussi, voilà. Donc c'est ainsi que Satan a été vaincu. Et vaincu, Satan a maintenant perdu le pouvoir qu'il avait sur l'universalité des hommes. Il ne peut plus rien contre ceux qui s'attachent au Christ. Bon, il peut arriver, si vous voulez, que même quelqu'un tombe dans une faute très grave. S'il a été fidèle avant, etc., notre Seigneur va le récupérer. Voilà, bon, et puis après, le démon sera une fois plus vaincu. Il a perdu le pouvoir qu'il avait sur l'universalité des hommes. Il ne peut plus rien contre ceux qui s'attachent au Christ. Voilà. Je crois que c'est saint Augustin qui donne la comparaison. Le démon n'est qu'un monstre enchaîné maintenant. Un monstre enchaîné qui ne mord que ceux qui s'approchent. Si on ne s'approche pas, il risque rien. Mais toute la ruse du démon, évidemment, essayer de nous attirer pour qu'on s'approche. Non, approche un petit peu, tu risques rien. Un petit plaisir, etc. Et tout, et puis un petit peu plus. Et puis, clac, on se fait mordre. Et voilà. C'est de la faute à qui? À nous, s'approcher. Il fallait rester attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout son rôle maintenant, c'est de ça. Il dit, zut, j'ai plus de pouvoir sur eux. Alors, venez, je ne peux plus vous atteindre. Venez ici, approchez-vous. On n'est pas malin. C'est le processus de la tentation. On s'est rapproché de lui. Donc il ne faut pas jouer à la tentation. Il ne faut pas se laisser séduire par les tentations du monde. Attention à ne pas loucher en regardant. Aujourd'hui, autrefois, si vous voulez, la vie était plus rude pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a pas longtemps, c'est pas au Moyen-Âge. Il y a 40-50 ans dans les campagnes, etc. Et tout. J'ai connu chez mes grands-parents à la campagne, il n'y avait pas le chauffage, mais la cheminée. Il n'y avait pas de chauffage dans les chambres. Alors, on était petit à l'époque, j'étais quand même petit à l'époque. Et le soir, c'était impossible de se glisser dans les draps, c'était glacial. Parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Non, alors qu'est-ce qu'on faisait? Je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être qu'il y en a qui ça, une espèce de chose. Une bassinoire, peut-être, avec un manche. Alors là, on mettait des braises dedans, et puis on glissait ça dans le lit après le dîner, etc. Et tout. Et puis quand on rentrait après pour se coucher, Mais le matin, évidemment, ça s'était refroidi, alors on s'habillait vite. Donc il n'y avait pas le chauffage, il y avait la cheminée, il n'y avait pas l'eau courante, donc il y avait le puits, une eau extraordinaire à l'époque, il n'y avait pas de pollution et tout ça. Et puis pour faire la vaisselle, on se allait chauffer l'eau. Il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de douche et tout ça. Bon, c'était pas au Moyen-Âge. La vie était rude pour tout le monde. Hein. Une vie rude, on avait froid en hiver, on avait. Alors aujourd'hui, c'est avec le monde actuel, et tous les plaisirs qu'il y a aujourd'hui, même aussi bien même de la bouche, etc. et tout, que même la nourriture était beaucoup plus, il y a plus longtemps, était beaucoup plus simple. Hein. Je dis pas qu'il faut plus avoir de chauffage à la maison et tout ça. Même chez les capucins, à Morgon, il y a le chauffage. Bon, c'est des capucins quand même. Alors, le chauffage est dans le couloir, il n'est pas dans les cellules. Donc, si j'appelle le chauffage, je peux ouvrir la porte. Mais il y a quand même chauffage. On est obligé aujourd'hui, il n'y aurait plus de vocation. Bon, mais enfin, il faut quand même garder un minimum de mortification, voilà, c'est ça. Donc je ne dis pas qu'il faut s'allumer aux chandelles, plus de chauffage, etc. Et tout, mais enfin, bon, il y a un minimum, bon, on vit comme aujourd'hui, et puis on aurait peut-être plus les santé, voilà, bon, j'en sais rien. Bon, enfin bref, On vit comme aujourd'hui. Voilà. Mais alors, il y a tous les plaisirs aujourd'hui, c'est tellement, tellement facile, etc. Alors on louche, on va à la messe le dimanche, mais en même temps, il faut pas profiter un petit peu, et puis un petit peu plus, c'est tellement attirant. Et ça, c'est tellement... Les tentations sont partout, et puis aussi même pour les messieurs qui travaillent dans le monde professionnel, c'est la familiarité des femmes aujourd'hui dans les bureaux, dans les administrations et tout, complètement décolleté, tout le monde se tutoie, s'appelle par son prénom, on se tape sur l'épaule, on est très familier, mais c'est très dangereux. Les jeunes filles, tout ça, tout au milieu de tout ça, les tentations sont terribles. Mais enfin, avec une, il n'y a pas à se désespérer avec notre Seigneur. En plus, il faut se dire aussi que aujourd'hui, eh bien, le bon Dieu proportionne son aide aux difficultés de notre époque. Dans Notre-Dame a dit, Notre-Dame de Fatima a dit à Sœur Lucie que le rosaire, le chapelet aujourd'hui a une efficacité nouvelle. Parce qu'on a besoin qu'un des chapelets soit plus efficace qu'avant. Bon Dieu proportionne, donc il n'y a pas à dramatiser. Et puis, si on tombe, il y a toujours l'infirmerie. Heureusement, notre Seigneur quand même a prévu ça. Donc il y a le confessionnal. Donc attention, c'est de ne pas loucher et puis de ne pas devenir des chrétiens mondains, libéraux, pas seulement dans les idées, mais aussi même dans la pratique. Mondains, libéraux, c'est la mondanité, c'est très dangereux parce que finalement, on se laisse entraîner après par ce monde. Et pour nous en préserver, d'ailleurs, l'Église, à la vigile de Pâques, dont tout à l'heure, nous fait renouveler les promesses de notre baptême, en nous faisant renoncer à Satan, à toutes ses pompes, à toutes ses séductions, voilà. Donc la vie nouvelle dans laquelle nous sommes entrés depuis notre baptême et qui est le fruit de la résurrection de notre Seigneur, c'est une vie de renoncement à Satan et aux séductions du monde. C'est ce que nous rappelle l'Église. Voilà. Et puis quand vous assistez à un baptême d'enfants, bon, ce soir il y a un baptême d'adultes, enfin on n'assiste pas tous les jours, souvent à un baptême d'adultes, enfin il y en a de plus en plus. Hein. Bon. Le monde se dégradant, et Covid, tous ces trucs-là, et toute une jeunesse qui se dit que c'est pas possible. Hein, voilà. Victoire sur le péché, victoire sur Satan, victoire sur la mort. La mort est entrée dans le monde avec le péché du premier homme. Satan, en faisant tomber ses premiers parents, il avait entendu que le bon Dieu disait, bon Dieu avait permis qu'il entende. Que si vous mangez du fruit de cet arbre, eh bien, vous mourrez. Ah, Satan a dit, j'ai trouvé la faille. Faire manger et ils vont mourir, je vais tout détruire. Donc, il a d'abord voulu les faire mourir. Il s'est dit, c'est là. Et il pensait que par là, en les faisant mourir, il détruirait le plan de Dieu. Il avait été déjà furieux et jaloux de la création du premier homme. Et il crut avoir gagné quand il commença à voir les hommes mourir les uns après les autres, sans exception, de génération en génération. Ah, ça va, très bien. Et puis voilà, Cain a tué Abel, etc. Puis les hommes meurent, ça y est, j'ai tout détruit. Le bon Dieu a créé les hommes et tué, moi je détruis les hommes. Surtout qu'après la mort, il n'y avait même pas le ciel pour les justes. Après le purgatoire, s'ils devaient passer par le purgatoire, ils allaient dans les limbes. Et les limbes, dans l'Ancien Testament, c'est pas trop ce que c'était. C'est une sorte de cave humide, noire, pendant laquelle on attend pendant des siècles et des siècles. Une durée dont personne ne voyait la fin. Et voilà qu'un jour, Satan a vu arriver un homme exceptionnel, d'une vertu extraordinaire, infiniment supérieur au premier Adam. Ça alors. Un prophète comme jamais il y en avait eu. Il avait réussi à faire mourir les prophètes. Ils sont tous morts, les prophètes, sauf même Jean-Baptiste. Tous martyrisés. Alors, il a déjà essayé de le faire tomber par ses tentations, au désert. Ça n'a pas marché. Voilà. Et il n'a eu de cesse alors de faire grandir la haine des pharisiens pour le faire disparaître de cette terre, comme il l'avait fait pour tant de prophètes. Mais cet homme extraordinaire était Dieu, il était l'auteur de la vie. Et alors, en le faisant mourir, eh bien, Satan, en un instant, a cru que ça y est, lui aussi, j'ai eu la voir, donc j'ai eu tout le monde. Eh bien, en le faisant mourir, il allait donner au Fils de Dieu l'occasion de vaincre la mort en ressuscitant au matin de Pâques. Il y a des gens qui ont ressuscité avant. Les prophètes ont ressuscité des gens, mais ils sont morts une deuxième fois. Du coup, ils sont morts deux fois. C'est bon. Peut-être pas si bien que ça d'être ressuscité, parce qu'on meurt encore une fois. Bon. Ah oui, même ceux qui ont été ressuscités par des saints, ils sont morts après. Et là, c'est le seul qui vainque la mort pour toujours, comme saint Paul le dit. Et notre Seigneur n'a pas seulement vaincu la mort en lui-même, il donnera cette victoire à tous ceux qui mourront en lui, qui mourront en lui étant unis. Évidemment, cette victoire sur la mort, pour nous, pour que nous ressuscitions, eh bien pour nous, il faut quand même attendre, il faut attendre le jugement dernier. Mais enfin, il n'y a plus ces espèces de limbes, caves humides, c'est soit le purgatoire ou alors déjà le ciel. Alors, la victoire sur la mort, nous aussi, nous y participerons, mais ce n'est pas une victoire immédiate, alors sauf la Sainte Vierge qui a été ressuscitée. La victoire sur la mort, ce n'est pas une victoire immédiate, qui fait que nous ne mourrons pas, parce qu'il faut qu'on passe par la mort, parce qu'il nous faut tous passer par où notre Seigneur est passé pour arriver à la gloire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou bien, de temps en temps, il faut réfléchir quand même, bon, même quel que soit son âge. Hein, on a eu dans le cimetière, donc maintenant il a été transféré, mais on a eu un petit enfant de 4 ans dans le cimetière. On a eu un... tué par dans un zoo, les parents qui faisaient un dimanche après-midi au zoo de la Flèche, et c'est une panthère qui c'est terrible. Hein, bon. On a eu un jeune homme de 18 ans. Il a été transféré après parce que ses parents ont déménagé et transféré ailleurs. On a eu un jeune de 18 ans là aussi. Qui était mort dans un accident de voiture. La voiture est tombée dans la Loire. C'est très dangereux. Les bords de Loire en voiture sont très dangereux. C'est très joli, mais c'est très dangereux. Et la voiture est tombée dans la Loire, il s'est noyé. 18 ans. On a un de nos frères, 41 ans, un Québécois qui abattait des arbres et tout ça. Il est mort subitement, voilà, de stupéfaction. Il pensait avoir une santé de fer. Bon. Le cœur, quelque chose, voilà, c'est ça. Bon. Donc, ça peut arriver à tout âge. Voilà. Donc, il faut. Bon, on ne sait pas comment nous aurons, il faut s'abandonner au bon Dieu, mais enfin, il faut y réfléchir de temps en temps. Nous aurons tous notre calvaire. Tous notre calvaire. Bon, il ne faut pas être terrorisé. Hein. Et justement, c'est tellement important, et oh là là, on a plus tellement peur. Notre Seigneur a institué un sacrement pour ça. C'est le sacrement d'extrême-onction, donc il y a un sacrement. Et puis, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le sacrement. Ben, notre Seigneur lui donne des grâces. Vivons au jour le jour, essayons d'être fidèles au jour le jour, de nous relever si on tombe, et on continue comme ça, et le bon Dieu nous assistera. Voilà. Donc, mais il nous faut tous passer par la mort, de toute façon. D'abord l'accepter comme une punition pour le péché. C'est une punition pour le péché, pour toute l'humanité, c'est comme ça. Oh, ben oui, mais moi je ne suis pas responsable du péché d'Adam, on n'était pas là. Adam était notre tête, si vous voulez. Ça. Quand c'est la tête qui flanche, c'est tout le corps qui est éclaboussé. Hein. Dans une société, imaginez un chef d'entreprise qui fait des catastrophes, tous les gens après, vous faites partie de cette entreprise, tout le monde, oui, mais on est tous un peu, tous les gens, tout le monde, là, c'est, ou une, je sais pas, enfin, n'importe quoi. C'est, quand le chef est atteint, ça éclabousse un peu tout le monde. Voilà, il était notre chef. Hein. Donc en l'acceptant comme une punition pour le péché, aussi pour nous configurer au Christ mourant sur la croix, pour le péché avant de ressusciter. Voilà, c'est une configuration ultime. Donc le chrétien, si vous voulez, il est membre du Christ, il faut que tous les membres passent par où la tête est passée. C'est une configuration ultime à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui est passé par la mort pour entrer par la gloire. Voilà, les membres doivent passer par le même passage que par la tête. Voilà. Et alors nous serons récompensés au dernier jour, nous serons récompensés par la résurrection. Donc en conclusion, donc quand on parle de victoire du Christ, ce n'est... ah oui, je vais lire une petite image, quand même, une citation quand même du père Calmel, importante si vous voulez, parce que même pour le moral, parce qu'on peut dire, aujourd'hui c'est la victoire du démon, mais partout dans le monde, il n'y a plus un seul pays vraiment catholique, il n'y a plus, de... Si vous voulez, des fois, ça se relève un peu, mais enfin, bon... Et puis ce qui se passe dans l'Église, alors, c'est la victoire du démon, aujourd'hui. Non, il ne faut jamais dire que c'est la victoire du démon. Jamais. Le père Calmel, très bien, là. Le triomphe des ennemis de notre Seigneur n'est toujours qu'apparent. C'est qu'en effet, dit-il, le triomphe ne saurait être attribué au diable, en toute vérité, comme s'il remportait quelque avantage sur Jésus-Christ, comme si Jésus-Christ avait le dessous. Finalement, l'Église, elle est vaincue. Ah non, attention, là. Prenons garde à n'être point dupe du langage, à ne pas imaginer la guerre de Satan contre Jésus-Christ sur le type des guerres entre deux monarques de ce monde qui sont également l'un et l'autre de simples créatures. Voilà, bon, on l'a déjà dit, très bien. En réalité, quels sont les avantages du diable? C'est quoi ça, ce qu'on appelle sa victoire? Ces avantages se nomment péché mortel, enfer, damnation, perte définitive de la grâce et de la paix. Une perte, une privation aussi effrayante que l'enfer, aussi incomplète, ne peuvent s'appeler victoire que d'une manière très impropre. C'est une drôle de victoire. En fait, on dit que le diable triomphe quand il réussit à obtenir des hommes qu'il se soustrait volontairement à la grâce du Christ, à la vie et à la joie, comme lui-même le premier s'y est soustrait volontairement. Mais ce n'est pas là un avantage remporté sur Dieu par le démon. C'est une défection volontaire des avantages ineffables que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Donc, si vous voulez, le démon n'entraîne pas les hommes dans sa victoire, il les entraîne dans sa défaite. Et ceux qui le suivent aujourd'hui et qui apparemment triomphent sur le monde, mais en fait, ils se font tirer par le bout du nez, par le démon, et ça se terminera pour eux d'une manière catastrophique s'ils ne se convertissent pas d'ici là. Et regretteront toujours dans l'éternité le temps où ils étaient victorieux sur terre. Alors, il y en a qui triomphent momentanément. Enfin bon, on ne juge pas, mais enfin, il faut dire les chefs d'État. Quand on est nommé chef d'État aujourd'hui, on dit... Alors, le soir des élections, le champagne, tout ça, oui, attention, parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous faites comme chef d'État, ça sera jugé à votre jugement particulier sur tout ce que vous aurez fait. Alors, vous avez une sacrée responsabilité. Vous pourriez mieux aller faire une retraite juste après l'élection pour dire, mon Dieu, pourvu que je fasse pas trop de bêtises. C'est pas le moment de chanter la Marseillaise, n'est-ce pas? Ouais, c'est redoutable. Hein. Ils seront tous jugés. On ne dit ça par haine ni rien. Mais on dit, non, la victoire, bah, victoire. Faire la petite personne qui va à la messe, qui est au fond de l'église, qui dit son chapelet. C'est beaucoup mieux, plus que je suis sûr. Bon. Voilà, bon, c'est une parenthèse sur la victoire aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas une victoire. D'ailleurs, si vous voulez... On voit à quoi, enfin c'est terrible d'ailleurs, on voit à quoi aboutit ce monde aujourd'hui, malheureusement, pour tant de gens qui sont des victimes, vous croyez qu'ils sont heureux. Le suicide n'a jamais... Dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu autant de proportions de suicides qu'aujourd'hui. Il y a même des suicides de jeunes aujourd'hui. De jeunes. Et transgenres, vous croyez? Et là, qu'ils vont finir par suicider. Comment se sortir d'un truc pareil? Devenir femme, devenir homme, c'est-à-dire... Mais les pauvres, c'est Ils sont manipulés, c'est des victimes. Un jour, je raconte souvent cette histoire, j'espère que vous ne l'avez pas entendue, enfin peu importe. Un jour, c'était dans tous les débuts ici, un jeune homme qui est arrivé au bout du parking, arrivé ici en disant, écoutez, je viens ici parce que... C'était beau d'ailleurs. J'ai fait toutes les expériences aujourd'hui. La drogue, le sexe, etc. Et tout. Moi, j'en peux plus, rien. Je suis usé, je suis vide avec tout ça. Ah, j'ai plus que deux solutions. Ou je me suicide, ou je me fais catholique. Question. Quelle est votre réponse? Attendez, on va réfléchir. On va se réunir entre pères. Écoutez, on a dit, écoutez, bon, on va pas répondre comme comme ça, les pauvres frères catholiques instantanément comme ça. Voilà une feuille de retraite. Allez en retraite, vous allez voir. Il y a été. En principe, en retraite, on ne fait pas son courrier. Mais là, le prêtre qu'il voyait, le prêtre lui a permis de faire son courrier, de nous écrire une lettre. Enfin. Mais père, j'ai trouvé, merci. Je ne me suicide pas. Et j'ai trouvé la liberté. J'étais esclave. Esclave de ce monde. J'ai trouvé la liberté. Magnifique. Bon. La victoire. Hein. La victoire, c'est quand on est avec notre Seigneur Jésus-Christ. On est victorieux. C'est nous qui sommes. Ils ne se rendent pas compte, les autres. Ils sont malheureux sans le savoir. Ils ne se rendent pas compte. Hein. C'est terrible, ça. Ils se rendent malheureux eux-mêmes, hein, les gens qui... Bon, voilà, on ne juge personne. Et puis, il faut pas... On n'en sait rien dans tous ces gens dans le monde qu'on croise, tout ça. Il y en a qui seront avec nous au ciel, hein, il y en a qui passent à travers, qui... Bon, évidemment, heureusement. Donc, quand on parle de victoire du Christ, ce n'est pas sur un plan purement temporel, bien sûr, qu'il faut nous situer. La victoire de notre Seigneur, ben voilà, voilà, on va revenir au Moyen-Âge. La magnifique. Au Moyen-Âge, c'était pas si facile que ça, non plus, on peut croire. Donc il ne faut pas tomber dans une sorte de messianisme temporel à la manière des Juifs. Bon. L'Église n'est pas moins glorieuse et notre Seigneur n'est pas moins victorieux. En plein Moyen-Âge, où le christianisme imprégnait totalement la société, c'est merveilleux, c'est l'idéal, on doit combattre pour s'approcher de ça, bien entendu. Bon, l'Église n'est pas moins glorieuse et notre Seigneur n'est pas moins victorieux en plein Moyen-Âge où le christianisme imprègne totalement la société qu'en pleine persécution de Dioclétien ou de Néron quand le sang des chrétiens coulait à flot. L'Église était autant victorieuse. Dans les deux cas, les fidèles du Christ étaient vainqueurs de Satan avec notre Seigneur. Et avec Satan, ils étaient vainqueurs du monde et du péché. En attendant d'être victorieux de la mort au dernier jour. Donc, quels que soient les événements de cette terre, ces événements qui sont décrits de manière générale dans l'Apocalypse, il ne faut pas chercher, on se trouve à quelle période, etc. On se trouve à toutes les périodes. Bon, lisez le livre du Père Louis-Marie. Donc, quels que soient les événements de cette terre, la Jérusalem céleste, dont les pierres sont constituées par les justes, continue à se construire jour après jour par les âmes qui arrivent dans le ciel. Il y a quelque chose de merveilleux qui se construit. On dit même, on dit le diable porte pierre, parce que les persécutions qu'il a faites pour détruire l'Église et qui peut continuer, ça, les gens qui ont subi les persécutions, c'est des pierres taillées, extraordinaires, magnifiques, qui vont faire quelque chose dans la Jérusalem céleste. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Là, il y a une flèche, elle est splendide. Bah oui, c'est Dioclétien qui a fait ça. Oh, mais bravo Dioclétien, elle est magnifique. Hein. Le diable est furieux, il ne peut rien contre ça. Ça se construit jour après jour par les hommes qui passent, même qui rentrent au purgatoire, et puis après qui arrivent au ciel. Et là, oh, c'est un toc-toc, et il voit, ça se construit. Et il est de plus en plus furieux en ce moment, parce qu'il voit que la cathédrale, elle est presque finie. Alors il veut continuer à essayer de prendre le plus les hommes pour qu'ils ne rentrent pas, parce que finalement, il va d'échec en échec. Parce que ça continue à se construire malgré lui. Il n'arrête pas d'aller d'échec en échec. Donc, pour nous redonner courage, eh bien, il faut lever nos regards vers le haut, il faut regarder vers cette cité céleste qui se construit jour après jour, plus belle que la plus belle de toutes les cathédrales. Voilà. Alors, à certaines périodes, comme au Moyen-Âge, c'est la nef qui se construisait. Il y avait beaucoup de gens qui allaient au ciel, alors on construit la nef. La nef, le sanctuaire, voilà. Beaucoup de pierres, beaucoup d'âmes, etc. Bon. Et peut-être que nous en sommes aux dernières flèches, j'en sais rien. Mais ce n'est pas forcément une défaite. C'est les flèches. C'est beau les flèches d'une cathédrale. Évidemment, on souhaite qu'il y ait le maximum de gens qui soient sauvés, bien entendu. Mais bon, ça, c'est dépend. Bon. Le bon Dieu a sa providence, etc. Et tout. Mais il y a d'autres périodes, c'est la nef, d'autres, c'est plus discret. Mais ça continue à se construire. Voilà, c'est ça. Les démons pensent peut-être qu'aujourd'hui, il met notre Seigneur en échec, mais non. C'est peut-être la dernière flèche de l'édifice ou l'une des flèches qui se construit. Notre Seigneur l'avait voulu et prévu depuis toute éternité pour la beauté de l'ensemble. Et jusqu'à la fin, le démon aura contribué à la beauté de l'ensemble malgré lui. Et à la fin, c'est l'édifice tel que notre Seigneur l'avait voulu dans les moindres détails, qui apparaîtra aux yeux de tous et pour la rage de Satan, qui n'aura rien pu faire pour l'empêcher. Évidemment, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une immense douleur en voyant un si grand nombre d'âmes qui se perdent dans des temps comme aujourd'hui. La Sainte Vierge est venue à Fatima quand même pour montrer l'enfer, attention, et pour nous sensibiliser à la perte des hommes. Il y a beaucoup d'âmes qui tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et qui offre des sacrifices pour eux. Donc la Sainte Vierge veut nous donner une compassion. On va dire, priez pour les âmes aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est facile de tomber en enfer. Priez pour qu'il y ait le moins d'âmes possible. Voilà, c'est important, il faut... Parce que la Sainte Vierge est une mère, c'est une mère qui est douloureuse de voir tant d'enfants qui se perdent. Donc elle nous demande notre aide. Elle a levé une grande croisade pour le salut des âmes. Il faut s'y associer à cette croisade, les premiers samedis, voilà. Bon. Et puis, toujours, si vous voulez, après, l'enfer, là c'est ça, après la construction de tout bâtiment, mais enfin, même d'une cathédrale, il y a plein de déchets, il y a des palissades qui ne servent plus, il y a des planches qui ne servent plus, etc. Et tout. Alors on met tout, on fait un grand brasier, puis on brûle tout ce qui reste. Ce qui malheureusement dans l'humanité n'aura pas servi et n'aura pas répondu au plan de Dieu, ce sera le grand brasier de l'enfer pour toujours, c'est ça. Bon, il faut bien dire, le mystère de l'enfer, c'est le mystère au niveau des âmes, qui jusqu'au dernier moment auront refusé la miséricorde de notre Seigneur. Jusqu'au dernier moment. C'est pas, faut pas croire, c'est le bon Dieu. Bon, t'as fait ça, allez hop. C'est bien ça. Jusqu'au dernier moment, notre Seigneur, on lui a coûté assez cher. Chaque homme lui a coûté assez cher. On peut dire qu'il a versé son sang pour chacun de nous. Alors il fera tout, et puis sa mère, la Sainte Vierge, fera tout jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'il y a des conversions surprenantes. Mais il y a des gens, le mystère, c'est qu'il y a des gens qui, au dernier moment, diront non, je ne veux pas. De temps en temps, on entend ça, des gens qui refusent le prêtre, et puis sa famille, oh, laisse-nous tranquille avec ces histoires-là, ça c'est tes convictions, laisse-nous tranquille dehors. C'est dramatique quand c'est ça. Alors que des fois, la personne, on serait approché, ça aurait... Voilà. Un jour comme ça, on était dans une maison, on avait signalé quelqu'un, évidemment, il vivait en concubinage, tout ça, bon, oui, il est en train de mourir d'un cancer, mais on y va, évidemment, on nous a signalé, etc. Il y avait sa concubine qui était là, il était dans la chambre à côté, j'ai jamais pu rentrer dans la chambre. La porte... Non, non, mais écoutez, on vous téléphonera, tu parles, tu téléphoneras. Elle gardait la porte, j'avais pas forcé la porte, c'est dramatique, quand c'est pas possible. J'avais le Saint-Sacrement, j'avais la communion, notre Seigneur était à 5 mètres de lui, et il n'a pas pu venir, il était à 5 mètres. Bon, il a peut-être été sauvé, on sait que c'est quelqu'un qui avait, de temps en temps, disait des Ave Maria, c'était un militaire, il avait été perdu dans la jungle, etc., et il ne pratiquait pas, etc., rien. Il s'est rappelé les Je vous salue Marie, puis du coup, il s'en est sorti, alors, donc, c'est possible que, mais enfin, bon, quand même, c'est des situations qui sont dramatiques, Bien sûr, la personne a dit, non, non, mais quand il sera au dernier moment, on vous téléphonera, oui, tu parles, alors j'ai laissé le numéro, évidemment, on lui allait à la poubelle parce qu'on n'a jamais été appelé, évidemment, évidemment. Ah, c'est terrible. Bon. Oui, et pourquoi ça s'appelle l'enfer, la Géhenne? Parce que la Géhenne, c'était le nom du dépotoir de Jérusalem. Bah, évidemment, un dépotoir, à l'époque. Et il y avait un feu en permanence. Donc, on disait, pour montrer l'enfer, vous voyez, c'est comme ça. En permanence, c'est un jamais. On rajoutait tout, parce qu'on mettait toujours des déchets, donc ça brûlait toujours. Donc c'était pour les prophètes, les prophètes, c'était quand ils parlaient de l'enfer, ils disaient, allez voir là-bas, c'est ça. Donc quelles que soient les difficultés des temps, quelle que soit notre faiblesse, notre fragilité, si nous sommes de bonne volonté, si nous voulons vraiment être sauvés, nous serons sauvés. Notre Seigneur est infiniment bon, infiniment juste. On lui a coûté assez cher. Il fera tout pour nous sauver. Voilà. Donc il faut vraiment être. Donc là, bien comprendre que la religion chrétienne, c'est la religion de la victoire pour tout le monde, pour tous ceux qui le veulent, la religion de l'espérance. Voilà, et penser que voilà, les on pourrait dire aussi. Ah, ça y est, c'est Pâques, les chrétiens sont en train de fêter leur victoire, nous sommes perdus. Ah, ils ne sont pas perdus, ils peuvent pas. Rejoignez-nous. On va fêter notre victoire ce soir, notre victoire, ce soir, merveilleux. Bon. Voilà. Donc même à la limite, on pourrait dire que le monde n'est pas vraiment... Le monde est notre adversaire, mais c'est Satan qui est notre adversaire. Le monde, ben, ce sont ceux qui suivent Satan, et malheureusement, ce sont ceux qui sont laissés entraîner par lui. Et il y en a qui soient conscients ou non de le suivre. On espère qu'un jour, ils seront conscients, et voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc la religion chrétienne, c'est la religion de la victoire, et le signe de cette victoire, c'est la croix. Voilà, c'est bien par la croix. Voilà. Très bien, bah écoutez, sainte fête de Pâques. Et puis, attention, on a pu faire quelques efforts pour le carême, mais faut pas dire, ah non, c'est plus le carême. Faut toujours garder un minimum. On a peut-être même pris quelques bonnes habitudes. Faut pas continuer le carême après Pâques, c'est même pas l'esprit de l'Église. Voilà. Cependant, il faut toujours garder quelques mortifications, quelques bonnes habitudes qu'on a pu prendre, parce que, attention, nous ne sommes pas encore ressuscités, donc nous sommes toujours blessés par le péché originel, donc il faut quand même garder quand même un minimum. Bien voir quelques... Contre la tiédeur, contre en particulier, voilà, même par rapport à la nourriture, etc., il est bien sûr permis... Recommandé de faire un bon repas à Pâques, mais toujours avec une certaine modération, bien entendu. Mais même dans un couvent, il y a un repas amélioré le jour de Pâques, quand même. Voilà. Très bien. On chante. C'est un peu tôt pour chanter le Regina Celli. Il n'y a pas encore eu là. La...